swag. Can't be graded, won't let nobody degrade me. Ooh, that money looking tasty. Niggas, they be talking, but they can't even walk. Yeah, niggas backwards like Chris Cross. When I bought, you know I bought a wall. Bitch, I'm A, damn, I got it on my face. Who are y'all? Gas stinking draws. I got too much sauce. Bitch, I'm a boss. Got the green in my pocket like a vegetable. Bitch, I am a damn, I can't be no cannibal. Eating up the beat like a fucking cannibal. Eating up the beat like a fucking cantaloupe. Bitch, I am a damn, bitch, you know that I'm the GOAT. I am a damn, baby, say it real slow.
Tu t'intéresses à la scène musicale actuelle? Tu veux découvrir de nouveaux artistes? Une excellente façon d'y arriver est de plonger dans l'univers d'un nouvel album récemment ajouté sur nos ondes. Chiz te recommande avec son émission Plein son sûr d'écouter un album en entier. Plein son sûr tous les vendredis de 10h à 11h à Chiz 94.3.
Avide de découverte? Tu veux être informé de tout ce qui se passe dans la ville de Québec et sur les ondes chiziennes? Visite le www.chiz.ca. Tu y trouveras critiques musicales, palmarès, nouveautés culturelles, informations, nouvelles sportives et l'écoute en direct. C'est un rendez-vous au www.chiz.ca.
De la réveilleur Saint-Charles, boisé sur le slalom, mes zigzags.
Si ça nous tue, pourquoi on recommence?
Écoute locale avec Chiz 94.3.
Il est 4h.
Mercredi tout le monde, on est le 16 juin, vous écoutez Chérie j'arrive avec Gabriel Arcan en remplacement de Félix Duchesne. Aujourd'hui je suis accompagné de Gabriel Tremblay qui va co-animer l'émission avec moi. Gab, en forme?
En forme toi?
Ben yes. Oui, on n'a pas encore de lunettes aujourd'hui, mais ben non, hein? ça s'en vient pas pire.
Un animateur mi-up.
Exact. Aujourd'hui on a une grosse émission d'art et culture, on jase théâtre avec Michel Nadeau, on a une entrevue avec Loïc Lafrance, on va parler cinéma avec Nathan Murray, on va avoir de la littérature avec Alex Lamor, ben précisément la lecture autochtone. Et sans plus tarder, Chérie j'arrive, ça commence maintenant. On rejoint au bout du fil, sans plus tarder, le directeur artistique du théâtre Labordé, M. Michel Nadeau. Bonjour.
Bonjour.
Vous allez bien?
Très bien, vous-même.
Ben oui, super. Je suis accompagné aujourd'hui de mon co-animateur Gabriel Tremblay, qui va assister l'entrevue aujourd'hui. Donc, Théâtre Labordé, nouvelle programmation pour la saison 2021. Comment que ça s'est produit?
Comment c'est produit? Ben écoutez, ce qu'il a fallu faire tout d'abord, suite à l'année qu'on vient de passer, il a fallu prendre la décision, est-ce qu'on annonce une saison ou pas? Si oui, comment? Est-ce qu'il y aura... on aurait plein de questions à se poser, puis il a fallu être, réalistement optimiste en se disant, ben les choses vont bien, le taux de vaccination augmente, les gens y vont, la double vaccination aussi va bon train, le taux de contamination de chaque personne malade diminue beaucoup, il y a presque plus de cas, c'est 5, 6, 7, 8 cas par jour à Québec. Fait qu'on a pris pour acquis, on a pris la gageure qu'on aurait une saison la saison prochaine, puis que s'il y avait une quatrième vague, ben ce qu'on nous dit, c'est que peut-être ça sera pas si important que ça, vu que les gens vont être vaccinés. Et puis, on s'est dit, allons-y, ça fait assez longtemps qu'on entend dire que les gens nous disent, on a hâte de revenir en salle, on a hâte de revoir du théâtre, on se fait tout ça très régulièrement. Fait qu'on a, d'une part, décidé de reprendre, évidemment, les spectacles qui avaient été reportés la saison dernière, cette saison-ci. Et après ça, bien sûr, d'en ajouter d'autres pour compléter le tout pour la saison prochaine.
Oui, j'ai remarqué, en regardant un petit peu la programmation déjà sur le site web, qu'on va avoir aussi des premières parties.
Oui.
Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu?
Ça se faisait auparavant, il y a un certain temps, dans les cinémas, c'est-à-dire qu'il y avait des courts-métrages avant le programme principal. Et c'est une proposition de Samuel Corbeil, qui est comédien, auteur, et qui m'est arrivé avec ça en disant « J'aimerais ça essayer des premières parties ». Et ce qui est intéressant dans son projet, outre le fait que ce soit des premières parties, c'est qu'il a interviewé plusieurs jeunes, une vingtaine de jeunes de 18-19 ans, en leur posant la question « Comment tu vois le monde en 2070, donc dans 50 ans? Et comment tu te vois, toi, dans 50 ans? » Et il a colligé comme ça leurs réponses, leurs craintes, leurs angoisses, leurs espoirs, etc. Et il a écrit, composé 5 courtes pièces, des micro-pièces de 6 à 6 minutes, qui vont être jouées par des acteurs qui sont dans la soixantaine et qui vont un peu représenter ces jeunes-là dans 50 ans. Et c'est ça. Donc, ça va être fait avant chacune de nos productions maison de l'aborder. Donc, il y aura un petit spectacle, une courte chose, un solo de 6 à 6 minutes qui va parler de ses préoccupations. Là, d'une part, les premières parties, c'est le fun, et d'autre part, d'entendre la préoccupation des jeunes adultes de 19-20 ans, savoir c'est quoi leur vision de l'avenir. Oui. Ça, c'est intéressant aussi. Puis, donc, c'est tout nouveau. Il y a personne qui fait ça au Québec. C'est une première. Alors, on est très, très heureux de présenter ça. On a hâte de voir aussi comment les spectateurs vont recevoir ça. Là. C'est un beau projet.
Monsieur Nadeau, c'est l'autre Gabriel à la parole. J'avais une question pour vous. Vous avez fait quelques captations, quelques pièces en formule hybride au cours de l'hiver. Est-ce que c'est prévu pour la saison d'automne? J'avais vu le gars de Québec, entre autres, là, cet hiver, donc.
Oui. Là, par exemple, Singulière, qu'on a pu jouer seulement à 5 reprises devant le public, a été fait en captation, puis est disponible jusqu'à la fin du mois de juin. Et si tu as vu, le gars de Québec, là, c'est un autre type de captation, peut-être vraiment beaucoup plus pour l'écran, là, vraiment, avec beaucoup de gros plans, etc. Mais oui, comme il y a une sorte d'incertitude par rapport à la saison prochaine, et comme aussi, il y a peut-être des gens qui vont rester encore un peu craintifs, etc. Puis il y a des gens aussi que, par exemple, comme le gars de Québec, du monde du Calouette, tu sais, qui ont visionné la pièce. On a des gens en France, il y a des gens à Gatineau, bon, Montréal, qui n'avaient pas l'occasion de venir à Québec. Ça fait que ça, c'est intéressant aussi pour un public plus large. Mais oui, il y a 4 de nos 5 productions qui vont être filmées, donc enregistrées et diffusées sur le web après la série de représentations en salle, là, une semaine ou deux après, le temps de faire le montage et tout ça. Ça sera disponible aussi pour toute la saison.
Parmi les pièces qui vont d'ailleurs être disponibles en format hybride, je dirais, on a la pièce Polygraphe, qui est une création de Marie Brassard et de Robert Lepage. C'est la première fois qu'elle va être jouée au Québec. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? On parle quand même de quelque chose qui est assez dramatique, si je ne me trompe pas.
Oui, c'est un drame. C'est une sorte de thriller policier. Mais je dirais que c'est une sorte de thriller de policier philosophique, un petit peu. En fait, c'est une pièce qui a été créée par Marie et Robert en 1989. Et c'était à partir d'un fait divers qui est arrivé dans Saint-Jean-Baptiste, où une jeune comédienne avait été assassinée, tout ça. Et c'est une fille que Robert connaissait. Et donc, ils ont fait une pièce autour de ça, à savoir, donc, c'est un jeune homme qui, son ami est mort, il est la dernière personne qui l'a vue vivante, et il passe le test du polygraphe, parce qu'évidemment, il est soupçonné. Et même si le test du polygraphe est négatif, ça ne veut pas dire nécessairement qu'il est innocent. Et donc, il va rester comme ça, la police va garder un œil sur lui, et c'est beaucoup une pièce sur le doute, tout ce doute-là sur lui-même, cette intrusion finalement du pouvoir policier dans sa tête va faire en sorte qu'il va douter de lui-même, il va même douter est-ce qu'il l'a fait, est-ce qu'il l'a pas fait. Et c'est une pièce donc qui est écrite en 1989 et 88-89. Et 89, c'est l'année où le mur de Berlin est tombé. Donc le mur de Berlin est un personnage aussi dans la pièce. parce qu'un personnage allemand, donc qui a fui l'Allemagne de l'Est pour venir en Allemagne de l'Ouest, en Occident, et évidemment, il s'est ramassé au Québec. Mais c'est une pièce beaucoup sur le mur qui sépare la vérité du mensonge, la réalité de la fiction, le cinéma du théâtre, parce qu'il y a une actrice de théâtre qui joue dans un film, dans un premier film, et la pièce joue beaucoup avec ça. Dans la pièce, il y a, à un moment donné, des scènes, c'est Matrouchka, les poupées russes, la grande poupée quand cache une petite. Parce que je vous dirais, c'est un peu de métaphore de cette pièce-là, où c'est un jeu de miroir. Alors, c'est Robert Lepage, avec toute le brio et tous les jeux de correspondance, les choses qui se répondent, etc. Puis on a demandé à Martin Genet, qui a collaboré déjà avec Robert Lepage dans les opéras, et qui a fait des mises en scène au Cirque du Soleil. Donc, c'est quelqu'un d'extrêmement inventif, avec une très grande sensibilité visuelle, esthétique. Donc, ça prenait un metteur en scène de ce calibre-là pour reprendre, parce que la pièce, le polygraphe, n'a jamais été reprise au Québec après que Marie et Robert aient arrêté de la jouer. Et on s'est associé aussi avec un artiste en art numérique de renommée internationale qui s'appelle Herman Colgan, vraiment quelqu'un là, de très connu dans cet univers-là, qui a décidé qui n'a jamais fait de théâtre et qui s'est associé au spectacle aussi. Donc, ça a donné visuellement quelque chose d'extrêmement intéressant. On peut en avoir un petit aperçu si on va sur le site de l'aborder. Oui. Là, dans le lancement de saison, il y a un petit teaser là, d'un laboratoire de création qu'on a fait.
Et pour conclure l'entrevue, j'aimerais ça aussi qu'on parle de quelque chose de vraiment d'actualité. Bien entendu, je vais faire référence à La paix des femmes, qui va être aussi une présentation en salle et en captation. Donc, c'est une pièce qui, je pense, s'avère nécessaire pour rentrer au théâtre, puis surtout s'imprégner et réfléchir au quotidien et les rapports qu'il y a entre les hommes et les femmes. Rapidement, pouvez-vous nous faire encore quelques petites explications là-dessus?
C'est inspiré du travail d'une femme qui s'appelle Rose Dufour, qui a fondé une maison il y a quelques années, qui s'appelle la Maison de Marthe, et c'est une maison qui aide les femmes qui veulent se sortir de la prostitution. Et donc, on a rencontré cette femme-là, Véronique Côté, l'a rencontrée à plusieurs reprises, a rencontré des femmes qui sont là, et la pièce parle de ça, en fait, de ce rapport de domination, du pouvoir finalement de l'argent des hommes sur le corps des femmes. Mm-hmm. C'est pas directement une histoire de prostitution, mais indirectement, parce que c'est une fille qui va voir une prof d'université et qui est une prof d'études féministes et qui dit ma sœur écoutez vos idées sur la prostitution comme étant que ça pouvait être un libre choix, que c'était une façon de, on pouvait utiliser notre corps, on avait le droit de faire ce qu'on voulait finalement, que notre corps nous appartenait. Et oui. Elle était imprégnée de vos idées, elle a fait ça et elle en est morte. Et c'est une confrontation entre ces deux femmes-là, sur deux points de vue, et les deux vont être transformé par ce rapport-là. Mais c'est une pièce parce que c'est un sujet difficile. Véronique Côté, c'est une femme d'une très grande intelligence, d'une très grande sensibilité, qui était beaucoup intéressée par la poésie. Donc, c'est une pièce qui est très, qui est féministe dans le sens très, très large du terme. C'est une pièce qui est pour les femmes. Et les deux femmes, même si elles ont l'élève, la sorte de l'élève et le prof, elles ont des points de vue différents. Elles ont un très grand respect l'une de l'autre. Alors, c'est une pièce, oui, on l'a fait en lecture et les gens qui l'ont vu étaient très bouleversés par ça. Puis ça pose une question de fond, c'est-à-dire, est-ce que le rapport profond, est-ce qu'il n'y a pas une violence de fond dans tout rapport entre les hommes et les femmes de façon inconsciente? Et c'est ça que ça pose comme question. C'est très troublant, mais c'est très bien fait et ça nous oblige vraiment. C'est le thème de la saison réflexion, là. Alors, particulièrement cette pièce-là.
En effet, je pense que ça nous amène à réfléchir et tout. Énormément, merci. On a la programmation qui est disponible pour toutes les autres pièces de spectacle. On en a combien exactement?
Pardon?
On roulera avec combien de pièces de théâtre pendant cette saison-ci?
On va avoir, nos cinq pièces, on a trois pièces en accueil, donc ça fait huit pièces. On a des 5 à 7 aussi, donc on a une dizaine de pièces qui sont disponibles et que c'est en vente dès maintenant. Et puis, comme l'année prochaine, la jauge risque d'être réduite à 140 personnes au lieu de 350, donc les billets partent rapidement. Là. Fait que c'est bien de faire ça vite parce qu'il y a beaucoup moins de place qu'à l'habitude.
Dernière question, est-ce que des offres groupées seront disponibles ou c'est seulement des billets à la carte qui seront vendus?
on pouvait pas se permettre d'avoir des abonnements parce qu'il y a trop d'incertitudes par rapport à ce qui s'en vient, parce que vraiment, on n'est pas à l'abri de mauvaises nouvelles. Donc, ce sont des billets à l'unité. Ceci dit, les gens qui étaient abonnés en 19-20, donc la dernière saison standard, donc eux, ils auront téléphoné puis ils auront l'accès au même prix. Là. Okay. Donc, quelqu'un pourrait acheter 5 billets tout de suite. Comme s'il y avait un abonnement réel, il y aura les mêmes avantages financiers par rapport à ça.
Super.
Ben, vous remerciant de votre temps prise avec nous, M. Nadeau. Donc, toute l'information est disponible sur le site web de laborder.qc.ca. Donc, on vous invite fortement à aller regarder un petit coup d'œil de cette programmation qui aura pour thématique cette année de réflexion. On va avoir autant des retours dans le futur, ben, back to the future, je dirais, avec la pandémie qu'on a eue, qu'est-ce que ça a inspiré de chez nos jeunes. On va avoir des questions rapport homme-femme, mais aussi un drame policier, entre autres, dans les productions. Donc, on vous remercie de votre temps, M. Nadeau, et on vous souhaite une très belle fin de soirée.
Merci.
C'est moi qui vous remercie. Au revoir.
Sans plus tarder, on va en musique avec Loïc Lafrance, la chanson « Jalouser les refrains ».
Voir le plus court de ma vie, j'ai passé une belle journée avec toi, avec mon vin. Tu peux pleurer aujourd'hui, l'orchomédie n'est plus ma tragédie. Il y en a qui se choquent, qui les mêmes qui parlent pour parler, mais toi tu penses pas à penser des histoires d'amour. C'est toi qui t'aimes, le monde qui pense que c'est ça, c'est des graines. De me sentir bien, le monde avec qui attend tout finit bien, qui finit mal. Des gens comme des chansons qui s'amusent. Mais fin des heures, j'ai passé des jours à penser, danser, ça pense à
On est de retour en onde et on est avec Loïc Lafrance. Salut Loïc, ça va bien?
Ben oui, salut, ça va bien toi?
Ben oui, super. Donc, on vient parler de ton premier single qu'on vient juste d'entendre, Jalouser les refrains, mais aussi de ton prochain single qui arrive, si je ne me trompe pas, la journée de ta fête, donc le 29 juin.
Ouais, exactement. Dans le fond, c'est vraiment une stratégie publicitaire de sortir un single à ma fête. Je me dis, tu sais, je fais d'une pierre deux coups, là, tu sais, le monde oublieront pas que c'est ma fête et le monde qui savent que c'est ma fête oublieront pas que j'ai un single qui sort cette journée-là.
Bon, c'est un bon truc. Écoute, moi, demain, c'est ma fête, fait que je le plug aussi en onde. Fait que l'anniversaire a été la thématique pas mal toute la semaine.
Tu penses bon.
Ben, tout le temps, pas le temps. Fait dans le fond, c'est ça, premier single, tu sais, c'est la première fois que tu sortais quelque chose. Ça fait longtemps que tu fais de la musique?
Ben, tu sais, j'avais déjà sorti un projet dans le temps avec le band Ski de fond, un petit peu, qui était mon nom de camp, qui s'appelait Antimonochrome, une chanson à thématique de mariage, pas d'anniversaire.
OK.
Mais c'était vraiment le fun quand même. Puis là, ouais, en fait, c'est juste, ça vire plus projet solo avec cette tune-là, je dirais. Puis c'est ça qui est le fun, c'est un peu une émancipation du groupe, mais en même temps, c'est le fun parce que j'ai beaucoup de collaborations sur l'album qui s'en viennent aussi. Fait que même si c'est solo, je pense que si ça l'œuvre est plus complète, justement, quand il y a plus de monde qui participe.
Ouais, fait, c'est ça, en fait, toi, t'es plus à la guitare, je sais que tu joues un petit peu de piano, mais dans ton projet que j'ai eu une petite exclusivité d'entendre, t'as quand même beaucoup d'instruments qui sont présentés. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la construction instrumentale, justement, de ton album qui s'en vient aussi cet automne, si je me trompe pas?
Ben, dans le fond, tu sais, l'album il est vraiment divisé en deux parties, tu sais, parce que c'est un album un peu concept, là. Tu sais, je pèse mes mots, il y a des gens qui disent qu'ils font des albums concept, c'est pas concept pantoute, là. Tu sais, mais je pense que, mettons, l'album il est concept dans la mesure où t'as la première moitié qui représente plus un peu l'enfant. Puis être candide et whatever. Fait que le son, il est plus léger, plus naïf, je dirais. Puis là, à la moitié de l'album, ça tombe un petit peu plus pessimiste dans le « OK, t'sais, on devient adulte ». Puis moi, c'est vraiment de quoi qui me fait peur de grandir, je dirais. Puis bref, c'est ça. C'est pour ça que j'aborde ces thématiques-là un peu dans l'album. Puis justement, ça se transparaît niveau instrumental, t'sais, énormément. Dans le fond, la première moitié est très acoustique, très bon enfant dans le son, tandis que l'autre, il y a plus de fuzz, pas d'expérimental, là, je dirais, mais il y a plus de grosses guitares. Il y a une tune qui, ben, en fait, le prochain single que je sors, il est limite punk, un peu new wave, là, tu sais, fait que
quand même, que ça rajoute des belles touches, très, très varié.
Ouais.
Est-ce que tu es en train de créer un opéra rock?
Oh, ça, c'est une bonne question. Il y a des high notes que je fais à la voix, il y a des falsettos à des moments.
Okay.
L'histoire pourrait concorder, ouais, à un opéra rock.
Parce que tu parles de ton personnage, de ton lien avec la vieillesse que tu veux pas, tu refuses de grandir, etc.
Oh, oui. Okay. Non, c'est très, ça attire ses influences niveau selon le texte. Je dirais comme mettons, tu sais, j'aime beaucoup Le Petit Prince, j'aime beaucoup Catcher in the Rye, j'aime beaucoup. C'est quoi l'autre livre déjà? Le Petit Sauvage de Alexandre Jardin, là.
Ouais.
Tous des livres vraiment qui m'ont inspiré, je pense, dans ma façon d'écrire, là, énormément.
Ben, assurément, t'es quelqu'un de très coloré. Fait que je pense que d'inspirer de des livres qui sont de littérature enfantine et tout, ça te représente bien dans un certain point.
J'aimerais ça qu'on revienne. J'aime beaucoup Kid Paddle, je te dirais, là. Je suis un gros fan, là. Mais pas Game Over parce que ça se lit trop vite, comme.
Ouais, ça, c'est juste des trucs de jeux vidéo,
genre,
si je me trompe pas.
J'enquêtais à mes parents, là, quand j'étais jeune, là, puis genre, je le lisais en 15 minutes. Puis il était tellement fâché, là. Il était comme, on a payé 20$ pour ça, là.
Pour 15 minutes. Hey, c'est, ouais, moins d'une, c'est moins d'une pièce. La, c'est en plus qu'une pièce la minute.
Ah, c'est intense.
J'aimerais ça qu'on vienne un peu sur l'extrait qu'on a entendu. Jalouser les refrains, c'est la première pièce que tu sors. Pourquoi celle-là? Parce que si je me trompe pas, tu avais déjà d'autres chansons qui étaient en branle. Qu'est-ce qu'elle représente pour toi, cette chanson-là?
Ben, cette tune-là, dans le fond, c'est l'avant-dernière de l'album. Puis ça représente un peu le retour sur. La crise d'adolescence du âge, peut-être péter une coche trop fort, là, tu sais. Puis là, c'est comme genre la sagesse un peu de tout ça. Puis jalouser les refrains, je pense que c'est comprendre la morale derrière. Faut pas être jaloux des autres quand tu grandis, parce qu'à jalouser ce que les autres font de bien, tu feras jamais rien de bien toi-même, j'ose croire. Puis c'était aussi un cadeau de Saint-Valentin pour ma copine, cette chanson-là.
Oh, un grand romantique.
Ça l'a bien donné. Ah, je sais que je suis kitsch, mais je l'assume.
C'est beau.
Je l'assume énormément.
Plaisir,
ouais,
coupable, on aime ça.
J'ai amené mon ex en hélicoptère au bal.
Oh!
C'est un gros.
Hey, c'est bon, ben,
gros statement, là.
Gros statement. On sait que Loïc Lafrance, dès qu'il va être genre multimillionnaire, va juste se promener en hélicoptère avec sa blonde, puis va être comme, hey, salut tout le monde, je suis en hélicoptère.
Oui, c'est ça. Surtout qu'en plus, quand je suis arrivé en hélicoptère, il y avait comme un dude en Ferrari qui faisait son entrée. Ça a complètement chié son entrée, là. Genre, tout le monde regardait l'hélicoptère faire des 3-6 au-dessus de l'hôtel, là, genre, puis
à la James Bond ou presque. La prochaine chanson que tu vas nous sortir à la date de ta fête, tu nous parlais qu'elle était vraiment plus dans le gros fuzz, dans le presque punk. Parle-nous-en un petit peu.
Ben, tu sais, c'est comme, en fait, que dans l'album, justement, il y a la partie naïve, puis il y a comme une coupure au milieu qui se fait, tu sais. Quand tu entres vraiment dans le monde des adultes, puis que souvent, la coupure est drastique, je pense, entre une année de... Tu finis le secondaire, puis là, t'es au cégep, puis c'est nébuleux le fait que t'es un adulte, là, tu sais. Puis là, ça vient parler de ces thèmes-là un petit peu, puis vraiment, en fait, de l'agressivité qui s'ensuit, puis un peu du... T'es dérouté, puis un petit peu, je pense, désillusionné par rapport à tout ce qui se passe autour de toi. Puis la toune, elle vient vraiment parler de ça avec, tu sais, c'est comme, je vois vraiment la voix comme un instrument, fait que c'est fuzzé dans la voix aussi, puis...
OK, puis d'ailleurs, on voit dans ton visuel, pour ceux qui ont peut-être déjà vu un peu de promo sur le web, que t'as eu du fun à péter de la céramique.
Ah oui, oui, c'est clair, là. Dans le fond, le cover art, c'est un clown pété, là, que dans le fond, c'est une amie qui a pris en photo qui s'appelle Anne-Sophie. Anne-Sophie ou Amour-Paix sur Instagram, si vous voulez aller la suivre, elle est super bonne dans les photos.
Est-ce que c'est elle aussi qui avait réalisé la photo de ton premier single, Jalouser les refrains?
Oui, dans le fond, ouais. C'est elle qui fait tous les visuels pour mes trucs. Puis justement, tu sais, la pochette, les pochettes pour single, album, je les vois un peu en triptyque, là, tu sais.
Okay.
Genre que t'as comme la pochette qui vient de sortir représente un peu, je pense, la sagesse. Après ça, t'as comme. La pochette de l'album, ça va être un peu une pochette qui représente la candeur et tout. Puis là, elle du milieu, c'est vraiment la cassure entre les deux mondes, là, tu sais, vraiment.
OK, c'est quand même gros album. Gros album concept pensé de A à Z.
Ah oui. Puis en plus, c'est le fun de briser un clown, là, tu sais. C'est bien le fun, le concept, mais péter un clown au marteau, c'est vraiment débile, c'est hot, là.
Est-ce que t'as peur des clowns, puis c'est pour ça que tu les brises?
Cette question-là était stagée, là, je m'en vais, là.
Même pas. Même pas.
C'est ça. Non, mais j'ai pas peur des clowns. Non. Là. En vrai, je trouve juste ça esthétique, le clown. Là. C'est une belle image, le clown.
Ouais.
Puis souvent, on associe ça au clown triste, là, ouais. Puis on a plein de...
Ben, le côté gaffeur du clown, si je me trompe pas, c'est le clown blanc. Je me rappelle pas de l'art clownesse, exactement. T'as comme deux clowns, t'as un blanc puis un rouge, ou un noir puis un rouge.
Oh,
bref,
ouais.
Là, c'est des cours d'art dramatique que je me souviens plus de mon secondaire. Qu'est-ce qui s'en vient?
Ah, on a vu Pagliacci là, dans notre cours d'opéra.
En plus,
un gros opéra de clown triste.
Ouais, puis je me rappelle même
bon.
Pas. Faut dire que bon, la pandémie nous permet de retenir certaines choses. Pas ça.
Ouais.
dans le fond, je voulais savoir qu'est-ce qui s'en vient pour toi. Est-ce que t'as eu des productions? Est-ce que t'as des petits trucs qui s'en viennent? Des petits concerts à gauche, à droite? Qu'est-ce qui s'en vient avec toi pour cet été? C'est quoi ton plan de match?
Ouais, ben, j'ai ma live session pour la barouette acoustique qui s'en vient.
Okay.
Puis à part de ça, j'ai mon autre truc que c'est un clip. J'ai
okay.
un clip qui s'en vient pour une toune, mais ça sortira pas avant l'album. Puis justement, c'est en cours de production. Fait que je me mets pas de deadline pour l'instant, mais j'essaie quand même de speedrun ça. Je dirais que je suis comme aux deux tiers de production de l'album.
OK, puis on en avait déjà parlé hors onde, mais tu me parlais peut-être de cet automne, peut-être hiver, si je me trompe pas, pour ton album. Toujours dans la mesure du possible où tu veux offrir la meilleure qualité pour ton premier album, qui est un peu la synthèse d'un artiste. On s'entend que c'est la première chose que tu mets. Tu me parlais que c'est vraiment une synthèse de ta vie.
C'est parce que c'est ça, Daniel Bélanger disait que ton premier album, tu sais, c'est vraiment de quoi qui vient faire un overlook sur tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant.
Ouais.
Puis après ça, ton deuxième, c'est un peu plus un fresh start par rapport à tes idées, tu sais. Fait que c'est ça qui est intéressant, ouais.
Fait que comme modèle, Daniel Bélanger, mais à part de ça,
comme
qui...
producteur aussi, je pense qu'il réalise ton album, ça, Daniel Bélanger?
Non? J'ai pas les moyens, malheureusement, que Daniel Bélanger réalise Imagine. Mon album. Mais non, au niveau influence, là, c'est beaucoup Ludovic Allary, Starfucker, Jack Stober... non, j'ai mes noms en tête, là. T'as l'air chouc, là.
Passer de Ludovic Allary à Starfucker, j'aime ça. Comme,
Oh oui, ouais. Non, mais c'est en plus... En fait, je dirais comme Ludovic Allary, c'est dans le côté posé de l'album, puis dans le côté très mellow. Mm-hmm. Puis Starfucker, c'est plus dans les beats simples, puis...
Le
ça,
indie lumineux de la côte ouest, là.
Ouais, on va dire ça de même, on va dire ça de même, ouais.
OK, cool.
Exact.
Puis, à vrai dire, côté production, d'ailleurs, tu fais ça comment? Tu fais ça toute seule?
Je fais tout ça toute seule chez nous. Que j'ai une toune, que j'ai un sound engineer dessus, que c'est Antoine LZ qui est en train de faire sa technique là-dedans.
Oui, je pense qu'il est technicien sonore déjà de formation.
Ouais,
il est en train de compléter.
CNDF, si je me trompe pas. Ouais. De quoi de même. Puis bref, ça, il est en train de faire ça. Il est technicien de son sur mon prochain single.
OK.
Puis à part de tout ça, sinon, c'est vraiment des collaborations. Sinon, je tape pas mal tout seul. Puis...
Pas mal tout au caso en plus. Hein? T'es monté une couple de fois.
Ouais, au caso que je tape. Là. Ouais, du piano, je n'ai tapé pas mal ici. Puis ouais.
Ben, hey, ça conclut un peu notre petit segment d'entrevue. Si t'avais des shout-outs à faire, il te reste une petite minute pour faire ça, des remerciements.
Des passes à palette.
Des passes à palette. C'est ton moment.
OK, ben, je vais faire un gros shout-out à Shiz. Merci de m'avoir invité ici. Je suis très content. Ça fait de quoi de le fun à faire. Shout-out à tous ceux qui ont collaboré sur l'album. Dont Juliette Descaries qui fait des voix, Landon Dagenet qui fait de la bass, au mastering, moi-même. à prod, moi-même aussi. Puis sinon, merci aussi à mon coloc Gabriel Chouinard qui m'attend en ce moment de l'autre bord, qui a fait un peu de guitare sur l'album aussi.
Oui, guitariste jazz.
Puis, sinon, ouais, okay, on salue. Tyler Rourke au piano sur une des tunes, Simon Duchesne sur une autre des tunes au piano. J'ai aussi un dude qui s'appelle Félix à l'accordéon. Bref, il va y avoir plein d'instruments cool sur l'album. Ouais.
Fait qu'on a bien hâte d'entendre ça, Loïc, puis merci beaucoup de ton passage sur les ondes de Shiz. Merci d'être présenté au studio aujourd'hui, puis on suit ça assurément pour ton prochain single. Donc, sur Instagram, c'est Le Pirate Hipster, puis on reste à l'affût pour tout ça. Merci.
Merci.
Yes, nous autres, on s'en va en bloc publicitaire, et après ça, ben, on s'en va écouter Jésus les filles avec la pièce Doudou.
Yes, si je me trompe pas, ça, gars. Pas trop longtemps après, sujet talk avec Nathan Murray, on va parler de cinéma. On attend très solidement de la critique de Pinocchio et de Cruella, ainsi que les sorties de vendredi.
Yes sir, à plus tard.
Ceci s'adresse à tous les amateurs de punk rock, de hardcore et de ska. Depuis 2004, Punk Détente vous diffuse le meilleur de la musique d'hier à aujourd'hui. Au menu, des entrevues avec nos bands de la scène locale, les nouvelles punk rock, la liste des concerts à venir, mais surtout, vos demandes spéciales. Le tout livré directement dans vos oreilles par une animatrice complètement passionnée. Punk Détente, les mardis de 18h30 à 20h sur les ondes de Chiz 94.3.
Suivre l'actualité à tous les jours, c'est de la grosse job. Mais t'as quand même besoin d'un bon sujet de conversation sur ta terrasse pour pas avoir l'air trop bête devant ta date Tinder. Bonne nouvelle! Guillaume Bédard t'explique les sujets chauds de la semaine tous les samedis de l'été à partir de 17h. C'est tout ce que t'as besoin de savoir avant de sortir.
Saviez-vous que rap, ça veut dire rythme et poésie?
Le Beatnik Show.
Le show de rap avec le meilleur flow.
À Chiz 94.3, le lundi à 20h30.
Lundi 20h30.
Avec votre animateur, Nicolas Leclerc. Pour du bon hip-hop québécois, t'as pas le choix.
T'as pas le choix.
C'est le Beatnik Show.
Merci, c'est le Beatnik Show.
Au Club Critique, on donne toujours notre 110%.
Cette tune-là fait clairement pas les ligues majeures.
On a la meilleure équipe.
Quand j'ai écouté ça, j'ai pogné un méchant 2 minutes pour interférent.
Au cœur de l'action,
je fais une passe sur la palette. Je veux plus rien savoir de cet album-là.
Pour vous donner une information claire sur les nouveaux joueurs musicaux.
D'ailleurs, c'est le fondateur de ce concept-là.
Des mises en échec jusqu'aux étoiles du match.
Tartuffe-là, je la prends dans mon équipe demain matin.
Guillaume, Gabriel,
Émilie.
On va la mettre dans le net top corner.
Tous les mercredis, 13h.
on est de retour en onde et on accueille dans le studio Nathan Murray pour nous parler de cinéma. Salut Nathan, ça va?
Oui, ça va très bien, toi?
Ben oui, super. Fait qu'aujourd'hui, critique de Pinocchio, critique de Cruella, sortie de vendredi dans l'univers de Disney?
Pour le Pinocchio, on est loin de Disney. Donc, c'est vraiment une adaptation du conte, okay. Du conte original, par Matteo Garrone, qui n'est pas spécialement un... disons, un réalisateur de type Disney du tout.
Okay.
Pinocchio, je pensais à ça quand je suis allé voir le film, justement, ouais. À une heure fort, 11h50, 21h50, je suis sorti de là à minuit. Donc, les représentations du soir qui ont recommencé.
C'est ça.
Je me souvenais de quelques critiques qui disaient un film familial, mais c'est pas familial, pas. Je gardais peut-être un souvenir traumatisé de l'adaptation de Roberto Benigni qui était okay. sorti au tournant des années 2000, alors que j'étais très jeune et très impressionnable. Mais l'histoire est d'une rudesse incroyable.
Ben, on en avait parlé un petit peu en ondes. Je pense à ta dernière présence, on avait fait quelques, peut-être pas, prédictions un peu de l'univers. Ça allait être un peu plus cauchemardesque. Est-ce que c'est des thèmes qui reviennent un peu?
Quand on y pense, l'histoire, c'est tout ce qui peut arriver. Donc, à un jeune garçon qui ouais. n'obéit pas à ses parents. La morale est d'ailleurs répétée plusieurs fois. Mais Pinocchio, il est kidnappé, volé, détroussé. Il se noie à quelques reprises, ouais. transformé en âne, pendu. Véritablement, destin très, 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 très difficile. Et il y a des images d'une violence assez franche parfois, okay. notamment celle avec Pinocchio qui est pendu sur fond de clair de lune
à un arbre. C'est ça, qu'on avait dans notre fameux conte de Disney d'enfant. Là.
C'est particulièrement dur, puis c'est une violence à laquelle on est peu habitué. Donc, c'est pas la violence à grand déploiement des Marvel avec New York qui se fait exploser pour une millième fois, mais c'est une violence très, très symbolique, assez impressionnante. Il y a une scène aussi assez dégoûtante avec le chat et le renard. Donc, rappelons que Pinocchio, ce petit garçon est construit et donc façonné par son père, Geppetto, ouais. Qui est interprété dans le film par Roberto Benigni, celui qui avait réalisé l'adaptation précédente, celui à qui on doit la Vita e Bella, donc le film sur l'Holocauste là, qui avait remporté un Oscar. Grande, grande figure du cinéma italien international qu'on avait peu vu. Et il prend cette fois-ci le rôle du vieux menuisier qui il est très, très émouvant. La première partie du film, les premières 20-25 minutes sont très, très émouvantes. Le personnage de Geppetto est formidablement bavard et formidablement attachant aussi.
Okay.
Donc, c'est mis en scène dans une Italie rurale très, très pauvre et l'image le rend bien. Ensuite, commence le côté un peu plus sombre de l'histoire, le côté un peu plus féerique donc, ouais. de ce conte de fées-là et les aventures que Pinocchio traverse. Il tombe notamment sur le chat et le renard, donc interprété par donc non pas une figure animée ou de la prise de vue réelle, mais véritablement des acteurs qui sont un peu attifés de cette manière-là. Donc ça ouais. garde un côté toujours très...
Un peu théâtral.
Oui, c'est ça. Mais deux personnages dégoûtants. La scène du festin où ils se goinfrent ouais. sur l'argent de Pinocchio est absolument dégoûtante, justement. Okay. C'est assez impressionnant. Et ensuite, la scène de cette pendaison-là et toutes les autres aventures de Pinocchio. À chaque fois, le ton navigue entre une sorte de tragédie puis une sorte de tragicomédie aussi.
Ouais.
Donc, ça donne vraiment une adaptation particulière. C'est le genre de film où on quitte la salle et on se pose la question, est-ce que j'ai aimé ou détesté ça?
OK. Puis t'en es revenu avec...
J'avoue qu'une semaine après, je suis toujours pas... Ma conclusion, c'est peut-être que je déteste l'histoire de Pinocchio,
okay.
mais que cette adaptation-là est particulièrement intéressante. L'univers visuel est absolument fascinant.
Okay.
Les personnages, l'esthétique choisie, les prises de vue sont magnifiques. C'est toujours un peu peu décalé. C'est vraiment le parti pris pour l'imaginaire, et très, très assumé. Les interprétations sont excellentes aussi. Les effets visuels sont très bien, très convaincants, quand on garde ce côté un peu artisanal aussi. Finalement, c'est un film qu'il faut voir. Il faut vraiment le voir pour se faire sa propre tête, mais c'est un objet de cinéma, ça c'est certain. C'est Matteo Garrone, déjà grand prix du jury à Cannes pour Gomorra, donc un film sur la mafia. Presque toujours sélectionné. Un autre prix pour Dogman, un autre de ses films récents. Donc, c'est vraiment une pointure. Les acteurs sont bons et puis l'univers visuel est vraiment fascinant. Ça mérite de le voir, surtout qu'on l'a 2 ans après sa sortie européenne. C'était sorti en 2019 en Europe. Donc, on l'attendait depuis longtemps, ce film-là au Québec.
Puis, côté personnage, est-ce qu'on a le droit à un Jiminy Cricket?
Et formidablement, c'est interprété par une vieille dame, ou un très vieux monsieur. C'est ce grillon, c'est qui est un peu la conscience de Pinocchio, mais et qui l'avertit, qui lui dit donc si tu n'obéis pas à ton père ou si tu continues à faire à ta tête, il va t'arriver malheur. On le voit à quelques reprises dans le film, mais c'est vraiment pas le petit personnage attachant auquel on était habitué dans Disney. Donc c'est une grosse créature étrange, porteuse de mauvaises nouvelles.
Fait qu'on est vraiment plus dans le côté pessimiste de Jiminy. Puis même, je me rappelle, ça fait longtemps que je l'ai écouté, mais on avait le « Go ahead, make a fool of yourself, and then you're gonna listen to your conscience » ou quelque chose comme ça. Là. La phrase n'est pas exactement celle-là. Mais Jiminy, à un certain point, même devient perturbé émotionnellement quand il arrive des événements à Pinocchio. Mais de la façon que
Pinocchio est particulièrement odieux avec... Il lui lâche une bûche de bois donc au début du film. C'est un personnage... c'est un peu celui qui annonce la morale. Donc, c'est un peu la voix du narrateur qui annonce la morale et puis qui dit à Pinocchio qu'il faut le dire est absolument insupportable. mais disons que ça me semble être une méthode éducative très efficace. Sincèrement, j'imagine amener un jeune enfant voir ce film-là et à mon avis, il va filer drette pendant la semaine qui va suivre.
Tu voulais nous parler aussi de Cruella.
Oui, on en a parlé brièvement la semaine dernière.
Aussi, ouais.
Mais je voulais peut-être revenir un peu pour faire une critique en bonne et due forme plutôt qu'une simple impression. Donc, je vous avais dit que j'ai bien aimé. C'est un bon 3,5. Sincèrement, ce que la plupart des critiques lui ont donné, d'ailleurs. Mais vraiment, bel univers. Alors, encore une fois, visuellement très intéressant. Le réalisateur Craig Gillespie, qui n'est pas n'importe qui. Son dernier film avait connu un beau succès. Donc, sur I, Tonya, donc moi, Tonya, la patineuse artistique qui avait fait démolir les jambes de son adversaire avant le championnat. Un film complètement éclaté avec, mon Dieu, j'ai oublié son nom, c'est quasiment Margot Robbie. Donc, dans le rôle principal.
On la reconnaît, elle est tellement partout, Margot Robbie.
Tout à fait, donc, qui était dans le rôle principal. Il revient, donc on reconnaît un peu son univers irrévérencieux dans ce film-là. Le côté très assumé des costumes aussi c'est très très grandiloquent, c'est très très impressionnant. On est dans tous les genres, un peu, on dit un film punk, c'est un peu le cas. La bande sonore aussi qui est exceptionnelle, je l'ai écoutée en revenant. Florence and the Machines qui fait la chanson thème du film. Ensuite des grands succès, non pas uniquement des années 70-80, mais véritablement une bande sonore éclatée de très très grande qualité. Et la musique fait vraiment partie du film.
Prend la place un peu d'un personnage.
Oui, sincèrement, c'est formidablement bien agencé à tout ça. Et les deux actrices sont exceptionnelles. Emma Stone, qui est, bien entendu, comme toujours, excellente. Et aussi Emma Thompson, grande actrice, 2 fois oscarisée. La professeure de... de voyance dans Harry Potter, donc celle qui avec les grandes lunettes un peu fofolles. Donc peut-être que donc les plus jeunes générations la connaissent davantage pour ce rôle-là, mais une très très grande actrice britannique qui joue la baronne, donc la femme pour qui il va finir par travailler Cruella, qui est une modiste géniale et tyrannique, machiavélique aussi. Donc
est-ce qu'elle est si méchante que ça, où on remarque même que la baronne historiquement dans les Dalmatiens n'est pas non plus un être super aimable. Oui. Mais là, la dualité un peu entre les personnages, est-ce qu'on prend, vu qu'on est vraiment plus dans la tête de Cruella, je dirais, est-ce qu'on prend un peu en pitié Cruella, ou elle est tout de même assez détestable?
Il y a un changement. Donc, au début, on l'apprécie, mais elle a comme un peu cette ambivalence, presque cette schizophrénie entre ces deux personnalités. Donc, la bonne petite fille qu'aurait voulu sa mère. Et puis, Cruella elle-même, ce personnage déjanté quand elle s'assume, quand elle révèle sa chevelure aussi. La deuxième est particulièrement clairement détestable, notamment dans sa relation avec ses deux acolytes. On en vient presque à prendre contre elle pendant un moment, mais bien entendu, on laisse c'est Disney, donc il y a elle redevient aimable à nos yeux avant la fin, tout en gardant cette
son côté qui
personnalité
a permis
de super vilaine. Oui.
Est-ce qu'on voit des Dalmatiens? Je fais la référence parce que c'est un peu le même genre de film pour ceux qui est un peu un trailer psychologique. Je sais pas exactement comment le définir, mais tu sais, qui se rapproche un peu de la forme que le Joker avait pris. Donc, peut-être, est-ce qu'on voit les Dalmatiens? Pourquoi on la connaît?
On voit les trois Dalmatiens de la baronne, du style « je vais te mordre et t'arracher la tête
».
On comprend aussi la relation particulière de Cruella avec les Dalmatiens à partir de ces événements-là. Mais disons que ce ne sont pas des bêtes sympathiques. Je les utiliserais bien pour garder ma cour arrière et je dormirais tranquille.
Donc, le rôle des vilains est inversé.
Oui, disons que effectivement, ce ne sont pas les petits toutous adorables pour lesquels on prend normalement quand on retrouve la vieille version de Disney ou celle avec Glenn Close.
OK. Puis j'imagine qu'au niveau du décor, on est dans un paysage londonien.
Oui, on est dans Londres, très, très gothique, très, très victorien.
OK.
Donc, c'est assez réussi aussi. La mise en forme, la mise en scène est absolument excellente.
Et tu voulais nous parler, des sorties qui arrivent vendredi.
Mince récolte que ce vendredi. Donc, on va peut-être se projeter
un peu plus loin.
Donc, parmi ce qui mérite d'être mentionné vendredi, il y a peut-être le documentaire Errance sans retour sur les Rohingyas.
Oui.
Qui mérite d'être vu, qui a été récompensé à de multiples reprises, qui prend l'affiche en salle. Donc, ça vaut peut-être la peine. Sinon, peut-être deux regards rapides sur les blockbusters qui sont annoncés. Donc, Rapide et dangereux, dont on parlait, Fast and Furious.
Ouais.
Le 9e volet, la semaine prochaine pour la Saint-Jean.
Est-ce vraiment nécessaire?
Ben, je me pose la question depuis le premier.
C'est ce que j'allais dire. Je pense qu'on a une espèce de petit consensus ce soir à Chérie, j'arrive pour dire que la
non,
série Fast and Furious.
Mais j'avoue que normalement, quand on dépasse, en tout cas, pour certains films, un, c'est suffisant. Trois,
c'est limite une trilogie. Ouais.
La trilogie ça aurait été bien.
Ouais, avec Paul Walker et Vin Diesel, on avait quelque chose de quand même divertissant.
Mais cette fois, le frère de Vin Diesel, donc qui est l'antagoniste, donc dans ce film-là, la bande-annonce annonce ce qu'on sait déjà.
Des véhicules qui flottent dans les airs.
Tout à fait. Toujours plus de 10 disons, c'est fou ce qu'on peut faire avec une auto. On dirait pas ça quand on est pogné sur Robert Bourassa à 5 heures, mais c'est fou ce qu'on peut faire avec une auto.
On salue le troisième lien qui va vraiment nous sauver le trafic.
Nous sauver la vie. Autre blockbuster, longtemps attendu cette fois-ci aussi, en juillet, le 9 juillet, ça va être Black Widow, donc la veuve noire avec Scarlett Johansson. Rachel Weisz aussi, Florence Pugh, donc vraiment une belle distribution d'actrices. On a bien hâte de voir. Je pensais jamais dire ça de mon existence, mais je m'ennuie presque des films de Marvel.
Ouh. Mais c'est vrai que ça fait longtemps qu'on s'attache au personnage de Black Widow, mais on n'a pas vraiment creusé si loin dans le monde de cette espionne.
C'est vrai.
Et donc, on l'attendait depuis longtemps aussi, ce premier personnage féminin de Marvel. On a eu Wonder Woman pour DC Comics.
On a eu Capitaine Marvel aussi.
C'est vrai, mais c'était qui pas, se souvient de ça, Capitaine Marvel? Moi-même, je l'avais complètement oublié. C'est mais ça, avec Brie Larson, c'était pas si mauvais, mais comme la plupart des Marvel, correct. C'était éminemment oubliable.
Oui. Bon, ça conclut un petit peu, à moins que tu aies des derniers des petits.
Non, je pense que ça fait le tour, surtout que bon, le beau temps revient. Donc, normalement, c'est pas la période la plus,
achalandée
au ciné-parc, c'est vrai.
Remarque, avec les temps pluvieux cette semaine, c'est peut-être une bonne idée d'aller au cinéma.
Il y a encore de belles choses à l'affiche, peut-être pas de belles choses qui sortent ce vendredi. C'est des films plus, disons, plus anonymes, une production française, une production espagnole, je crois. Ça vaut peut-être la peine d'aller voir sur le site des cinémas si ces films-là vous intéressent, mais j'en ai eu relativement peu d'écho jusqu'à maintenant. Et sinon, donc, il y a les grands films d'été, les films à pop-corn qui s'en viennent.
Ben merci beaucoup pour ta chronique. Nous, on se laisse en musique. On s'en va écouter La nuit se plaint de Robert Robert et de Hubert Lenoir.
Le silence complet dans l'auto, les avions qui décollent, la route qui défile. Besoin de t'en faire pour ça, c'est dans les sens que l'amour baigne. C'est pas si grave si on part pas. On peut entendre la nuit se plaindre. On peut entendre la nuit se plaindre. On peut entendre la nuit. On peut entendre la nuit se plaindre. On peut entendre la nuit. On peut entendre la nuit se plaindre. On peut entendre la nuit se plaindre. Par peur d'être compris, comme quasi gagné au loto, une tâche qui porte pas au savon, ni au compromis. Si c'est facile de s'en parler, si c'est facile de répéter, si c'est facile. Si c'est facile, laissez aller. Pas besoin de t'en faire pour ça. C'est dans le sens que l'amour peigne. C'est pas si grave si tu pars pas. On peut entendre la nuit se plaindre. On peut entendre la nuit se plaindre. On peut entendre la nuit. On peut entendre la nuit se plaindre. On peut entendre la nuit. On peut entendre la nuit se plaindre.
Quel idiot! Hubert Lenoir s'est confirmé. Le gars est un idiot de la Ligue nationale des idiots.
C'est parce qu'il faut que tu te protèges ou bien tu snaps.
On vient d'entendre Hubert Lenoir avec Robert Robert et aussi un moment donné, faut bien que tu te protèges, sinon tu snaps. Hubert Lenoir, c'est confirmé, il revient.
Yes, enfin.
Enfin.
On n'y croyait plus.
Ben honnêtement, avec la quantité d'attention médiatique qui n'a pas toujours été super positive en son égard, le personnage de Hubert Lenoir revient et il nous a annoncé ça d'une façon extrêmement colorée aussi. Tu veux-tu nous parler un petit peu du vidéo? Tu as eu la chance de le voir?
À peine. Là, je pense que t'es plus...
Je suis plus guéri là-dessus. Il n'y a pas de problème.
J'ai seulement suivi le Baron Bandit sur Instagram et j'ai vu qu'il était de retour.
Ben, il est de retour et il nous a annoncé ça, non de moindre, sur la chanson « Can't Handle Me Right Now » de Flo Rida, la chanson d'été très populaire début 2000. c'était quelque chose et on le voit enlever sa chemise en plein milieu de son salon et vraiment se laisser aller dans tous les mouvements de danse les plus incongrus possibles pour nous dire... Hey, je m'en viens, c'est confirmé, c'est cet automne, c'est 2021. Et il a pris la peine de s'impole Dominique Moret, ce pertinent animateur de la Radio X, pour lui, pour, en fait, qui avait parlé de lui de façon extrêmement condescendante et méchante, c'est ça. Et c'était tout en réaction à la disque lorsque Hubert avait, non le moindre, gagué un trophée. C'est riche, tout ce qu'ils viennent de nous annoncer.
C'est malade. Après la toune Félix de La Claire Ensemble avec Soldier, où on entend un sample de Dominique Moret aussi qui avait bâché à La Claire Ensemble il y a quelques années, ben... Une fois de plus.
Ben, en fait, hein, il a pas juste fait ça, notre cher Dominique Moret de Radio X. Ouais, ouais. Il s'est attaqué aussi à toutes les mesures sanitaires durant la pandémie. Bref, c'est pas de lui qu'on veut parler.
Non.
On va arrêter de donner l'attention comme qu'on devrait tous le faire.
Surtout qu'il refuse des entrevues. On avait essayé de l'avoir ici à Chiz, mais
en
non.
En plus,
ouais, non.
Ben non, OK.
Poule mouillée.
Ben, c'est ça, on l'a dit. Puis s'il veut nous inviter, ben ça va nous faire plaisir, nous, de peut-être nous déplacer. Puis, en fait, je veux revenir. Robert, avec La Nuit se plaindre, c'était la dernière production la plus récente de Hubert Lenoir.
Mm-hmm,
on est vraiment dans un côté plus dansant. On est loin de Darlene, qui était l'opéra rock qui passait de jazz à un hommage à Jean-Pierre Ferland avec la dernière chanson.
Ouais.
Et si on s'y mettait, en fait...
Si on s'y mettait.
Exactement. Donc, est-ce que toi, prédiction, on parle, on n'a pas grand-chose à date, mais
ça va être du blues rock.
Blues rock, toi,
non,
c'est...
Je sais pas. J'aimerais voir du blues rock un peu à la The Seasons, là, comme l'album Midnight, Let's Get a Hot Dog.
C'était tellement bon.
C'était du génie. Mais je pense que Hubert Lenoir va nous surprendre, c'est la moindre des choses.
Ben, c'était déjà éclaté, le projet de Darlene, et là, je pense qu'on va avoir de quoi de plus... Moi, je pense à un petit flip moderne. On va peut-être avoir un peu d'électro dans ce que Hubert s'en vient. Le gars a eu vraiment du temps pour produire cet album-là. Ça fait, si je me trompe pas, Darlene, c'est 2018?
Fait déjà, que, fait
2019. Ben, ça fait déjà 2 ans.
Oui, tout à fait.
Puis il y a eu une pause, puis il y a eu beaucoup de choses dans sa vie.
La tournée coupée en deux.
Oui, puis qui a été... ben bref. Moi, j'ai hâte qu'il fasse rebouger les choses parce que Darlene a fait bouger les choses, puis on attend impatiemment Hubert. Et on se laisse avec un petit segment pub et après, on reçoit Alex Télamore pour nous parler de littérature autochtone.
Yes.
Vous écoutez Chiz 94.3 FM à Québec.
Salut, ici Alex Baillargeon et je vous retrouve maintenant les vendredis à Chiz pour le deuxième service du Réchaud. Le Réchaud, c'est les grands titres de l'actualité commentés à ma manière qui ont retenu mon attention et que j'ai gardé pour vous au chaud sur mon Réchaud. On parle d'insolites, de télé, de techno, de cinéma et bien sûr des tendances du web de la semaine. Vendredi dès 11h, syntonisez le deuxième service du Réchaud sur les ondes de Chiz 94.3.
Sur une distance de 20 verres, la coupe Vanier au bout du pied.
C'est la main! Balle frappée solidement par White du côté gauche. Ouais. Circuit! Les Capitales qui reprennent les devants.
Pour ton sport local, écoute Chiz 94.3.
Les enjeux de santé te préoccupent? À ta santé, c'est ton émission de radio qui t'en apprend davantage sur la santé globale en te faisant découvrir des experts, des professeurs, des étudiants et des travailleurs passionnés. entre Planète et Stéthoscope, rejoins-nous un jeudi sur deux à 11h sur les ondes de Chiz 94.3 et en balado-diffusion sur www.chiz.ca.
Leave now, I have to let it go, I have to get it out. I felt the wind, yes, I heard him. I'll go where I wanna go, I'll be who I wanna be.
Entendre la chanson de Mikon Nikwe Ottawa, la chanson Nichi Aimi Hewin. J'espère que la prononciation n'a pas trop fait capoter nos auditeurs. On a écouté une chanson autochtone pour nous mettre dans le vibe avec Alex Tremblay Lamarche. Je précise Lamarche parce que je me suis trompé, je pense, à déjà deux fois depuis le début de l'émission. Alex, tu viens nous parler de littérature autochtone ou du moins de livres qui parlent de la réalité autochtone dans le cadre du mois de juin. Je lis autochtone. Donc, tu as trois ouvrages à nous présenter aujourd'hui. Je te laisse les présenter.
Oui, ben peut-être un petit mot avant sur Je lis autochtone dont tu parlais. C'est une initiative qui vise à mettre de l'avant la littérature autochtone pendant le mois de juin, puisque bon, ben on voit que les communautés des Premières Nations sont malheureusement dans l'actualité en raison des pensionnats autochtones, mais que bon, nonobstant bon cet élément, elles sont également créatrices d'une littérature particulièrement intéressante, comme on l'a vu notamment avec le grand succès de Koukoum de Michel Jean. Mais aujourd'hui, j'avais envie justement d'y aller plus du côté des essais et de parler, bon, d'enjeux autochtones. Donc, dans certains cas, ce sont des Blancs, si je peux m'exprimer ainsi, qui ont écrit sur les questions autochtones. Dans d'autres cas, c'est une Autochtone qui a écrit sur la question, mais dans tous les cas, ben, c'est des ouvrages qui nous permettent de nous renseigner sur la question autochtone et d'en apprendre un peu plus sur la question.
Et hier, en plus, on avait reçu dans une entrevue QO152, un rappeur autochtone qui nous a apporté vraiment une belle vision sur les enjeux actuels. Il y a eu un beau message tout de même de collaboration, oui, qui amène vraiment un côté éducatif, qui nous dit que c'est vraiment d'abord et avec le dialogue que tout se règle. Donc, je te laisse commencer avec le premier ouvrage, celui de David Clich, Un seul Québec, dialogue avec les Premières Nations.
Oui, ben c'est un ouvrage du regretté David Clich qui a été ministre du gouvernement Parizeau et ensuite du gouvernement Bouchard dans les années 1990. David Clich, justement, bon, avait eu comme mission de s'occuper de la question autochtone par c'est M. Parizeau qui lui avait confié cette mission-là parce que, bon, ce dont M. Parizeau s'était rendu compte, c'est que l'option souverainiste avait le vent dans les voiles au sein, bon, des Canadiens français, mais, bon, au sein des communautés autochtones, c'était pas du tout le cas. Il y avait des grandes réserves et sans jeu de mots, là, je m'en suis rendu compte en le disant, mais il y avait beaucoup de réserves sur la question parce que, bon, ce dont on se rendait compte, c'est que oui, OK, c'est bien beau faire l'indépendance du Québec, mais les Premières Nations avaient déjà, en fait, des problèmes avec le gouvernement fédéral parce que, bon, elles estiment qu'elles sont chez elles à raison. Et là, ben, le gouvernement va venir dire, ben, vous n'êtes plus dans des réserves fédérales, mais maintenant, vous êtes dans des réserves, bon, provinciales, québécoises. Ouais. Et donc, il y avait beaucoup de réserves et les Premières Nations étaient loin d'être acquises à la cause. Et donc, David Clich, qui avait une longue expérience avec les communautés autochtones, a été dépêché sur cette question-là et a fait des différentes missions pour être capable de justement faire un dialogue avec les Premières Nations et les convaincre de venir du côté du oui, ou du moins, en fait, de ne pas s'y opposer avec autant
de vigueur,
en fait, que ça avait été le cas jusqu'alors.
OK. Puis, en fait, c'est intéressant qu'on parle de ça parce que, justement, pour faire un petit retour encore sur l'entrevue d'hier, QO52 nous parlait comme quoi que le projet de souveraineté dans certaines communautés autochtones au Québec est populaire, puisque je pense au Micmac de la Gaspésie, qui vient de l'origine d'un mot qui veut dire nos amis, nos sauveurs, si je ne me trompe pas, ont un idéal qui se construirait avec les communautés québécoise, mais je pense qu'il y a aussi le rapport de, ben, si on crée quelque chose, on veut vraiment avoir notre part du morceau et de pouvoir discuter et de créer quelque chose avec vous qui nous représente dans tous nos intérêts. Est-ce que c'est quelque chose qui est mis un peu de l'avant ou on voit vraiment plus le programme politique qui est amené par David Clich?
On voit effectivement le programme politique, puis on voit la volonté de construire quelque chose ensemble, mais ce qu'on voit surtout, en fait, c'est la question environnementale.
OK.
Parce que déjà? Ce qui a aliéné, oui, déjà dans les années 1980 et 90, parce que ce qui avait aliéné une grande partie des communautés autochtones dans le Nord, c'était le projet hydroélectrique Grande Baleine. Mm-hmm. On se rappelle, on est à partir des années 1970, on est dans les grands projets hydroélectriques. Hydro-Québec prend de l'expansion et une volonté de la part de l'État québécois de construire toute une série de barrages sur la rivière Grande Baleine. Et bon, ben, ce qu'on va voir, c'est les communautés autochtones qui vont rapidement s'y opposer pour des raisons environnementales et pour des raisons aussi d'éventuelles inondations de leurs zones de chasse, de leurs zones justement ancestrales. Et bon, les communautés autochtones vont être capables de mobiliser des gens à l'international, notamment des députés européens, des gens aux États-Unis, etc. Alors que, on a un État québécois qui veut fortement aller vers ce projet-là pour des raisons économiques, pour des raisons justement de fierté nationale. Et un des coups de génie, en fait, de David Clich, ça va être de convaincre Jacques Parizeau d'abandonner ce projet-là pour des raisons environnementales, mais aussi pour des raisons de dialogue avec les Premières Nations et de consolidation de l'alliance avec les Premières Nations. Et donc, on voit déjà, en fait, la question environnementale qui s'invite dans les débats entre Premières Nations et État québécois.
Ben, en fait, c'est toujours d'actualité, que ce soit au niveau de l'exploitation des gaz pétroliers en Gaspésie,
dans l'Ouest aussi.
Dans l'Ouest et tout. Et on sent vraiment que... Honnêtement, je crois que les communautés autochtones, s'il y a bien une communauté canadienne qui représente les intérêts de l'environnement, c'est bel et bien eux. Ça m'amène justement à parler du côté autochtone de Catherine Maggie Labelle. Je crois que je le prononce comme il faut.
Je pense que c'est bon.
Une histoire de Wendat.
Des Wendat.
Au 17e siècle, l'hésitation, je voulais pas manquer ma shot. C'est une auteure qui est elle-même issue des Premières Nations.
Je te laisse
continuer pour parler un petit peu du livre que tu nous proposes.
Oui, elle est du groupe Wendat, issue du Kansas. Et il y a beaucoup de nos auditeurs qui vont dire Wendat, Kansas. Voyons donc, les Wendat sont à Québec, au village Huron. Eh bien, c'est un des intérêts de ce livre-là, c'est qu'il nous permet de nous désenclaver un peu parce que à Québec, on a l'impression que c'est une communauté qui est vraiment liée à la ville de Québec, alors que dans les faits, cette communauté-là, à la base, elle était à peu près dans la région des Grands Lacs en Ontario, et en raison de guerres avec les Iroquois, ils ont été amenés à se disperser un peu partout, notamment au village, dans la région de Québec, d'abord sur l'île d'Orléans, puis dans ce qui est l'actuel village Huron, mais également on va voir cette communauté-là aller plus du côté des États-Unis, plus du côté de l'Ontario, et donc un ouvrage qui permet de comprendre vraiment la diaspora Wendat et que, bon, ben, de mieux comprendre nos frères de la communauté Huron de Québec, comment justement elle s'est dispersée, comment elle a été amenée à se former à Québec, mais également comment elle s'est dispersée, en fait, dans l'ensemble de l'Amérique du Nord.
Donc, c'est plus un retour historique sur le déploiement géographique. Est-ce qu'on parle aussi de côté culture? Est-ce qu'on parle de rapport avec des autorités? On parle de quand même au niveau du 17e siècle, ouais. Fait que c'est 1600, là. Ça date, mais est-ce qu'on a des bribes historiques, des textes de vieux français, quelque chose comme ça, qui ont été traduits à l'intérieur de ce livre-là?
On a effectivement tout ce qui est culturel, parce que, bon, après avoir eu un premier chapitre qui nous parle, bon, des guerres avec les Iroquois et, bon, de leur effet sur la dispersion, puis, bon, ben, une deuxième partie, plutôt, qui est sur le redéploiement des Wendat un petit peu partout en Amérique du Nord, on a une troisième partie sur la diaspora et plus sur l'aspect culturel des Wendat, des choses qui, dans certains cas, on a voulu tasser, mais qui, bon, ont quand même été capables de subsister. Je pense notamment à la place de la femme chez les communautés autochtones, qui était beaucoup plus importante que la place de la femme dans les communautés occidentales, disons, de la Nouvelle-France.
Encore une belle chose qui pourrait nous servir au quotidien, ce fameux rapport homme-femme, alors que dans la majeure partie des tribus, si je ne me trompe pas, qui étaient sédentaires, c'était des sociétés qui étaient bâties avec un côté plus matriarcal. Donc, les Wendat étaient sédentaires par l'approche que tu me dis, ou c'était tout de même assez nomade?
Les Wendat sont plutôt sédentaires, mais il faut comprendre que il y a beaucoup de communautés qui vont être enracinées pendant un certain temps, et bon, au bout d'un certain temps, elles vont bouger. Ça a notamment été le cas des Wendat, qui, comme je disais, étaient, bon, du côté de la baie georgienne, du côté des Grands Lacs, puis se ramassent à l'île d'Orléans, puis se ramassent dans le coin du village Huron. Donc, il faut pas voir que derrière ces déplacements-là une communauté nomade, c'est plutôt une communauté qui est sédentaire, mais qui, bon, est amenée à bouger pour des raisons géopolitiques, comme par exemple sur l'île d'Orléans, ils vont se faire attaquer, donc ils vont devoir se redéployer sous la protection des Français. Et donc, c'est effectivement des communautés qui sont, je dirais, semi-sédentaires, là, qui sont pas fixées dans le sol, mais qui, bon, s'installent à un endroit pour en exploiter le territoire, notamment, bon, les Trois Sœurs, la courge, le haricot et le maïs.
Oui.
C'est un ouvrage qui nous permet là, de voir, en fait, la culture de ce groupe-là et, bon, également, bon, la diaspora dans l'ensemble de l'Amérique du Nord.
Et tu voulais nous parler aussi de l'ouvrage légèrement controversé de Jean Delisle, interprète au pays des du castor, mm-hmm. pardon, qui a fait, je dirais pas la une, mais qui a été quand même un sujet de conflit entre deux historiens aujourd'hui. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Quel est le problème?
Eh bien, les lecteurs du Devoir auront peut-être vu ce matin la réponse de Jean Delisle à Marie-Alice Bell dans les pages de leur journal. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a deux jours, Marie-Alice Bell, qui est professeure au département de linguistique et de traduction de l'Université de Montréal, a écrit une lettre dans le Devoir dénonçant un petit peu le propos de Jean Delisle, disant que bon, c'était un ouvrage qui s'inscrivait dans une perspective colonialiste et que, bon, il ne faisait pas assez de place aux abus qu'il y avait eu du côté, bon, des interprètes. Donc, ici, on parle des traducteurs, on parle de ceux qui faisaient le pont entre les communautés des Premières Nations et les communautés occidentales qui s'installent. Et, bon, ben, Marie-Alice Bell, justement, reproche à Jean Delisle de ne pas avoir assez insisté sur le rôle un petit peu de collabo, si je peux m'exprimer ainsi, de ces gens-là et de personnes qui, au final, ont contribué à assimiler ces nations-là, voire à les détruire. Et, bon, dans certains cas, lorsqu'on est du côté de certaines communautés religieuses, malheureusement, des abus dans le cadre de pensionnats.
En effet.
Et donc, Marie-Alice Bell, justement, bon, avait lancé ce pavé dans la mare il y a deux jours. Et, bon, Jean Delisle lui a répondu aujourd'hui en lui disant que, bon, son propos était peut-être un petit peu anachronique.
Ouais.
Puisque, bon, ben, ce dont il a voulu parler, c'est mettre de l'avant une 15 dizaines de personnages qui ont été des interprètes, de justement exposer un petit peu le rôle de ces personnes-là sans pour autant faire de jugement, sans pour autant entrer dans cette polémique-là. Il faut comprendre aussi que l'ouvrage date de 2019. Donc, bon, ben, la question des pensionnats autochtones n'était pas autant dans l'actualité à l'époque.
En effet, je pense que c'est important de leur situer parce que la façon même que l'historienne Mme Bell en parle, ça semble quasi être un ouvrage qui est simpliste, qui est mal vulgarisé. Puis pour avoir lu l'article que tu m'as envoyé avant de rentrer en onde, M. Delisle répond en disant « ben j'aurais dû peut-être nommer mon titre des interprètes au pays des gens qui ont fait du commerce de la fourrure avec les Autochtones en telle année, puis telle année, puis telle année, puis telle année. À une année, il faut trouver une certaine forme de termes synthèse pour exprimer notre idée. L'image était peut-être un peu problématique, là où tu voulais en venir à travers cette présentation du livre. On parle vraiment du rapport entre les interprètes, les Premières Nations et comment un peu les barrières linguistiques se sont déconstruites?
Effectivement, comment les barrières linguistiques se déconstruisent, mais également comment les barrières culturelles se déconstruisent et aussi le rôle stratégique de ces gens-là. Je pense notamment à les fils de Donnacona. Lorsque Jacques Cartier arrive à Québec dans les années 1530, eh bien, il trouve une bourgade, Stadaconé, près de la rivière Saint-Charles, où il y a des Autochtones qui habitent. Et il va ramener les deux fils du chef Donnacona. Donc, Domagaya et Taignogni, pardonnez en fait ma prononciation. Il va les ramener en France justement pour essayer de leur faire apprendre la langue française, puis les montrer au roi, etc. Puis les ramener ici. Et on voit justement toute la gentilité de ces deux garçons-là. La gentilité, en fait, grosso modo, c'est le pouvoir qu'ils ont un petit peu sur leur vie, puis le rôle qu'ils vont être capables de mener. Ils ne sont pas seulement passifs dans ce rapport-là à l'explorateur, mais ils tentent de s'imposer dans un rapport de force également, même si, ils n'ont pas nécessairement autant de marge de manœuvre qu'ils pourraient le souhaiter. Et donc, c'est un ouvrage qui nous permet effectivement de voir comment, les Autochtones ont joué un rôle de... comment certains Autochtones ont joué un rôle de passeur entre leur communauté et les communautés euro-américaines, comment certains Blancs aussi ont été intégrés dans ces communautés-là, ont appris la culture autochtone et ont par la suite servi de passeur. Je pense notamment à Étienne Brûlé, qui est un héros de la Nouvelle-France. Et ça nous parle aussi du métissage qui a résulté de ces relations-là, notamment, Jean Delisle met de l'avant le cas d'Elizabeth Cook et de sa famille, qui, elle, est issue du mariage de la relation plutôt d'un immigrant français qui débarque en Nouvelle-France et d'une Abénakise. Et sur trois générations, on va voir cette famille-là, métisse, s'engager, dans les truchements, comme on disait à l'époque, donc les relations entre autochtones et euro-américains. On va notamment les voir au service du gouverneur de New York et même, en fait, de George Washington. Donc, une famille qui va quand même être capable de tirer son épingle du jeu en servant d'interprète et en servant justement un petit peu de diplomate dans une certaine mesure.
Non, c'est ce que j'allais dire. C'est vraiment les premières formes de diplomatie nord-américaine, dirais, dans un contexte historique où, faut pas se mentir, c'était des échanges de pots de castor contre des j'oublie le nom du fusil, là.
Des mousquets.
Des mousquets, exactement, à la hauteur de... un mousquet mesure tant, donne-moi autant de castor. Puis les Européens avaient des fusils, alors qu'ici, c'était plutôt traditionnel comme arme. Donc, de se placer dans un état diplomatique, il y avait quelque chose à apporter au niveau, j'imagine, des grandes connaissances du territoire par rapport à la connaissance européenne de ce territoire-là qui était tout simplement pas le leur.
Tout à fait. Et on va voir que les Français vont jouer un rôle quand même assez important dans ces alliances-là, et que les Premières Nations vont vraiment y prendre un rôle important lorsque, par exemple, Champlain débarque et qu'il veut s'allier avec les Premières Nations. Lors de l'étabagie de Tadoussac, les Premières Nations vont lui donner le droit de s'établir à Québec, mais en échange, elles entendent avoir besoin d'un soutien militaire dans leur propre guerre contre les autres nations autochtones. Ouais. Donc, on voit que c'est pas seulement des échanges qui sont commerciaux, mais on voit que c'est également également des échanges qui sont militaires, culturels. Et bon, on voit aussi également déjà à l'époque qu'il y a tout l'aspect, en fait, de conversion. Ouais. C'est ça, avec les premiers missionnaires, la volonté, bon, de sauver les âmes, je le mets entre gros, gros guillemets. Et bon, ben, peut-être pour revenir un petit peu à Marie-Alice Bell, c'est un petit peu ce qu'elle reproche à Jean de Lisle de ne pas avoir vu derrière les initiatives du père Brébeuf, l'un des premiers missionnaires, une espèce de proto-pensionnat ou une proto-forme d'école qui déracine les jeunes. Oui, effectivement, il y a une perspective colonialiste, mais je pense que, bon, c'est un peu anachronique de parler de proto-pensionnat alors que, bon, on est au 17e siècle et dans complètement autre chose.
Oui, en fait, je pense que le système d'éducation n'était pas pensé à ce moment-là.
Exact.
Ou du moins, passé en effet par tout ce qui était de rapports religieux. Mais sérieusement, c'était super intéressant et j'espère que nos auditeurs vont peut-être prendre la peine de regarder la prochaine fois qu'ils vont faire un petit tour à la librairie ou même à la bibliothèque pour feuilleter ces ouvrages ou découvrir des auteurs autochtones. Donc, merci beaucoup, Alex Lamarche.
Bien, ça a été un plaisir. Puis, bon, j'aurais envie de vous inviter à la librairie Anénorak, qui est située au village Huron et qui, justement, est spécialisée en littérature autochtone. Et donc, allez faire un tour. Vous allez avoir toutes sortes d'ouvrages sur la question et, en fait, surtout d'excellents libraires qui vont être capables de vous conseiller.
Donc, merci beaucoup. Et nous, on s'en va en musique parce qu'on a on a une nouveauté de Choses sauvages, la chanson Dimension. On vous quitte quand même pour 5 minutes 17. Et après ça, on fait un retour sur le vidéoclip et sur cette chanson New Wave épique. Vous venez d'écouter la nouvelle chanson de Chose Sauvage, la pièce Dimension, qui nous amène dans une dimension de Chose Sauvage complètement différente.
Gabriel, ben, c'était facile, Seigneur.
Bon, faut que tu me rajoutes du lexique, là. Dimension, là. Je te laisse partir là-dessus parce que toi, le voyage oriental,
c'est pas ma sphère, c'est pas mon jam. Mis à part cette gamme orientale-là qui me semblait un peu réchauffée, c'est du génie cette pièce-là. Et j'ai eu la chance de l'entendre en primeur la semaine dernière, il y a deux semaines, alors que
à
Bethany, pour rallumer les lumières en une captation de Télé-Québec. Donc, ils ont joué cette pièce-là. Et bien, on a eu la même réaction, Émilie et moi, lorsqu'on a vu, on a entendu la toune, en fait, que la petite gamme orientale.
T'es pas fan, moi, honnêtement.
On est pas loin du. On est vraiment pas loin de ça, surtout qu'il y a sensiblement le même nombre de notes. Là, ça m'a un petit peu agacé, mais après ça, je veux dire, elle est quand même bien dissimulée. Et ben, comme tu en faisais part hors d'onde, les bands New Wave des années 80-90 au UK faisaient beaucoup de ça.
Exactement, je pense à Tears for Fears ou à Duran Duran pour les nommer. Honnêtement, c'est même dans ces couleurs-là, puis même on regardait le vidéoclip avant de rentrer en onde, le grain.
Ouais, le traitement vidéo, là, l'espèce de grain vieillot, genre 80 mm, 30 mm, là, c'est comme vraiment, vraiment ancré dans ces années-là, même peut-être début des années 90 avec Portishead.
Exactement, c'est ce que j'allais dire. Puis on les voit exécuter une espèce de danse spirituelle, appel au soleil, sans dire que c'est des moves de yoga.
On dirait une secte, là. Chose Sauvage est une secte.
Peut-être.
La secte sauvage, peut-être. les enfants de la secte sauvage.
Exactement. Et puis, c'est ça, on entend en fait un gros crescendo à peu près sur le 5 minutes 17 qui est là. Puis, on est confronté à des idéologies, comme je disais, ça nous transporte à gauche, à droite avec ça. C'est dans du... Ben, je dirais pas punk, parce que il y a le côté dance, mais en même temps...
Dark pop, peut-être.
Dark pop,
gothic
c'est,
pop.
Ouais,
là.
C'est exactement ce que je voulais trouver comme propos. Il y a vraiment beaucoup de synthétiseurs, du drum machine qui finit plus. On est loin de leur côté funk disco.
C'est ça, les lignes de bass là, sont presque inexistantes. Ben, sont dissimulées derrière une tonne de synthé.
Ouais, ben ça conclut un peu ce qu'on avait à dire sur ça. On vous invite fortement à aller écouter cette pièce. Là, parce que ça amène à un nouvel album qui va être présenté le 15 octobre prochain.
Ça s'en vient très très vite.
Et le lancement aussi le 12 novembre à Québec. Et je vous le dis ça tout de suite, mais c'est déjà en vente. Ça risque de partir quand il est pain chaud.
Tout à fait. Si c'est pas déjà envolé.
C'est ça. Fait qu'on se laisse avec une petite conclusion parce qu'aujourd'hui, on a parlé de pas mal d'affaires.
Quand même, hein?
On a eu Michel Nadeau qui est venu nous parler de la programmation du Théâtre Labordé. On a reçu Loïc Lafrance pour nous parler de son single « Jalouser les refrains » ainsi que de son prochain single qui arrive. On l'a eu en entrevue pour parler de son album concept.
Chic-tip.
Ouais, tout à fait coloré. On a reçu après Nathan Murray qui est venu nous faire une petite chronique et critique de Pinocchio et Cruella qui... Et les sorties qui arrivent de vendredi, mais c'est peut-être pas sa semaine préférée côté cinéma. On a parlé d'Hubert Lenoir et de à quel point nous, on l'aime, contrairement à d'autres animateurs un peu... pas pertinent. Sinon, on a reçu Alex Lamarche
pour me parler. T'as de la misère avec son nom, hein? Alex Tremblay-Lamarche.
Tremblay-Lamarche. Puis honnêtement, il fait tellement un beau travail. Puis à chaque semaine, il est super pertinent. Mais
shame on you.
Je le sais, je vais prendre le blâme. Il est venu nous parler de lecture, de littérature autochtone, ou du moins de livres cette semaine qui l'ont accroché sur la réalité autochtone. Parce qu'on en parle pas assez souvent. On va se faire une mission d'en parler plus souvent, du moins. On vous le promet, Achiz. Achiri, j'arrive avec Félix Duchesne, que je remplace aujourd'hui. Sinon, on vient de clore l'émission en parlant de Dimension, de Choses Sauvages, et on se dit à demain. Félix va être là, moi je ne suis pas là, c'est mon anniversaire. Non, c'est pas vrai, je suis pas là vendredi, je suis là demain, je risque d'avoir bien du fun.
Bonne fête en avance, Gab.
Merci.
Ici Marie-Joseph Corriveau. J'avoue que je trouve ma sentence bien sévère, mais au moins grâce à ma cage, j'arrive à capter 3600 secondes d'histoire les mercredis à 18h30 sur les ondes de Chiz 94.3 FM.
Vous ou un proche vivez avec une perte de vision? Peu importe où que vous soyez dans votre cheminement, la Fondation INCA est là pour vous. Que ce soit des formations en technologie adaptée, des groupes d'entraide, des activités éducatives pour les jeunes ou du soutien à l'emploi. Nos programmes gratuits permettent aux personnes touchées par la perte de vision de vivre la vie qu'elles ont choisie. Visitez inca.ca ou appelez-nous au 1-800-465-4622.
Durant quelques heures, les musiciens, les danseurs et les spectateurs ont vibré au même rythme.
Branche-toi sur l'art et la culture d'ici. Écoute local. Écoute CHIS 94.3.